cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 29 avril 96.
Ce vers quoi je tends, qui est inscrit au plus intime de mon être. C'est mon appétit le plus foncier. Il me rend bien heureux, qui me permet d'être heureux. Tandis que l'individu, c'est justement la manière concrète dont je peux atteindre ma finalité. Donc, voyez, il y a quelque chose de juste dans ce que dit Maritain. La distinction entre personne et individu, c'est sûr, l'individu n'est pas la personne et la personne n'est pas l'individu. Mais Maritain, n'ayant pas vu avec suffisamment de netteté la distinction du tiesti et du pos, n'arrive pas à intégrer pleinement l'individu dans la personne. Or, il faut intégrer pleinement l'individu dans la personne. Ma personne implique dans son exister mon individu. Ma personne est parfaitement individualisée. Elle l'est par le corps. Elle l'est par la quantité. Je suis distinct des autres. Exister dans ma vie par mon corps, et mon âme permet au contraire la communion, et c'est vrai, c'est toujours par la finalité que je communie avec les autres et que je suis un, mais les amis sont un par le même vouloir, idem valet, et ils sont distincts par la manière de vers cet idem valet, et chacun tend vers cet idem valet de manière différente, individuelle, singulière. Personnel, elle n'est pas individuelle. Si vous affirmez que votre finalité est individuelle, vous allez tomber dans un individualisme absolu. Et vous ne pourrez plus comprendre comment l'homme fait partie d'une communauté. Et que l'aspect communautaire est essentiel à l'homme. C'est pas quelque chose de secondaire. L'homme peut dépasser l'aspect communautaire par sa finalité. Il peut opter pour une vie contemplative qui implique une certaine vie solitaire. On ne contemple pas communautairement. On peut prier ensemble, mais on ne contemple pas communautairement. En commun. À quel niveau ne peut-on pas travailler en commun? À quel moment le travail en commun devient un obstacle? Tout ça, individu, personne. C'est très curieux que la personne permet la communauté, que la personne permet la solitude. Et vous avez le conditionnement de l'individu au niveau communautaire, au niveau individu. Parce que vous ne quittez pas votre corps. Dans le travail commun, vous comprenez très bien comment par le corps peut se nombrer. Nous travaillons à 7, nous travaillons à 10, nous travaillons à 2. Un nombre, c'est le corps qui permet ça, c'est pas la personne. Vous allez dire, on travaille à 7 et il n'y a que 3 personnes qui travaillent. Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a 7. On forme un groupe de 7. Mais dans ce 7, il n'y a que 3 personnes qui travaillent. Les autres suivent comme des moutons. Pas du tout personnellement. Donc, la personne me permet d'atteindre ma finalité. Si un travail en commun est tellement lourd, ça m'interdit d'atteindre ma finalité. Comprenez bien, je suis comme un mouton. Si, au contraire, le travail commun est dépassé par ma finalité et permet à ma finalité d'être saisie d'une manière plus profonde, je dirais, grâce à ce travail en commun, ma personnalité émerge d'une manière plus forte. C'est très étonnant de voir ça. Et là, on doit essayer de comprendre ces rapports entre individu et personne. Alors, essayons de continuer cette étude sur la personne. La dernière fois, je vous disais justement qu'il fallait bien voir l'individu, le corps, le conditionnement corporel est différent selon les différents niveaux de vie. Au plan métaphysique, vous dites simplement le corps, conditionnement substantiel. Et vous essayez de comprendre ce que ça veut dire. Conditionnement substantiel, c'est-à-dire qu'il joue un rôle de disposition par rapport à ce que je suis, mais non pas de détermination, non pas de finalité. Le corps ne détermine pas. détermine pas ma finalité. Il est de l'ordre du conditionnement. Donc, il est de l'ordre uniquement de la disposition. Mais il peut jouer un rôle très important du côté de la condition. Et c'est pour ça que je dis conditionnement substantiel. Parce que de fait, il est toujours présent. Alors, dans quelle mesure puis-je préciser la modalité différente de ce conditionnement? Et pour cela, dans un regard métaphysique, j'assume le point de vue de la vie. Ma personne est source de vie. Et ma personne, par mon âme, est source de vie végétative, passionnelle, spirituelle. Et je crois que je dois, si je veux vraiment comprendre dans mon je suis, la place exacte de ce conditionnement substantiel, je dois bien regarder ces différents niveaux de vie. Je les regarde métaphysiquement, vous voyez. Je garde toujours ce regard métaphysique du « je suis ». Je suis un être qui a besoin de dormir. Et quand je n'arrive plus à dormir, je suis très ennuyé. Parce que ça tient un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et puis au bout de la semaine, c'est très fatigant. La nuit, j'ai toujours envie de dormir la journée. C'est un déséquilibre fondamental. Tu vois, c'est conventionnel. Pourquoi dormir la nuit et avec le soleil être réveillé? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse? Certaines personnes font l'inverse. Qu'est-ce qui est conventionnel? Le conventionnel peut tenir un certain temps, mais ne tient fatigue. Le naturel repose. Donc c'est intéressant de discerner en moi, dans ma propre, mon propre développement personnel et individuel, ce qui est conventionnel et ce qui est naturel. Ça, c'est nécessaire ici. Parce qu'il n'y a pas de conventionnel dans la vie de l'esprit. Tandis qu'il peut y avoir un conventionnel dans la vie du corps. Je prends toujours cet exemple, tout simplement. Pourquoi travailler? Est-ce que c'est conventionnel de travailler la nuit et de dormir la journée? Des équipes de travailleurs. C'est conventionnel. Alors que normalement, l'animal dort la nuit. Normalement. Et l'animal est éveillé par le soleil et travaille quand il fait jour. Ça, c'est naturel. horizon végétatif est plus important que celui de n'importe quel autre animal dans sa croissance. Et dans cette croissance, le corps détermine, ne fait pas seulement que conditionner, détermine. Quand vous mangez, c'est pas votre intelligence qui détermine votre digestion. Même si vous voulez déterminer votre digestion par votre intelligence, vous ferez beaucoup de dégâts. Quelqu'un qui a une vie trop conventionnelle, il y a une répercussion sur sa vie végétative. Les jeunes moines passent nécessairement par une phase où, de fait, leur pauvre estomac doit se modifier, se transformer. Ils tapent le pouls toute la journée. Parce que l'aspect conventionnel modifie trop le point de vue de la vie végétative. La vie végétative est déterminée par mon corps. Mon âme végétative, comprenons bien, c'est pas le corps, c'est mon âme végétative. Mon âme végétative détermine ma vie végétative. Et je dois respecter cette croissance du corps. Je dois même l'aimer et lui permettre de se développer. Je respecte que mon corps grandit, qu'il y a une période de haut plateau, puis il y a une décroissance. Et même si je suis très stoïcien et je veux à tout prix tenir, il y a un moment où ma volonté cède. Devant mon pauvre corps qui n'en peut plus, dans une fatigue qui fait que j'ai absolument besoin de dormir et je dors éveillé. Les marches de nuit pendant les guerres, on dort éveillé. C'est-à-dire on dort en marchant. La fatigue s'impose d'une façon telle qu'il n'y a pas moyen. Et le corps s'impose de façon telle qu'il n'y a pas moyen. Donc, prenons conscience que ce conditionnement substantiel dans ma vie végétative est beaucoup plus qu'un conditionnement. Et dans ma vie humaine, il demeure toujours un conditionnement. Ces deux choses, puisque d'un côté c'est le regard métaphysique et de l'autre côté c'est le regard du vivant. Au niveau du vivant, le corps dans la vie végétative n'est plus seulement conditionnement et il joue un rôle de détermination. Important de faire ces distinctions parce que ça explique toutes les confusions qu'on trouve entre l'âme et le corps. Si je ne fais pas ces distinctions-là, je ne comprends pas comment, dans certaines perspectives philosophiques, le corps peut être regardé comme déterminant. D'être regardé comme troublant tout, et donc on a besoin d'en jeter. Dans ma vie affective, passionnelle, personne qui détermine ma vie végétative. C'est l'individu. Puisque c'est le corps. La rentrée jusqu'où la cesse volontaire qui vient de l'âme spirituelle peut-elle modifier mon ascèse, peut-elle modifier ma vie végétative, jusqu'où, parce que c'est net que un stylite par sa volonté se donne un genre de vie conventionnel. Ce n'est pas naturel. Quelqu'un qui vit en prison, les plats et les prisons qui existent actuellement, on fait subir au corps une ascèse.
Violente,
tout violente, et vous vivez alors dans pas visiter ces malades. C'est extrêmement curieux de voir qu'on fait une vie artificielle pour eux, pour leur permettre de reprendre vie. Oui, c'est un petit peu comme le tout petit enfant qui naît avant terme et qui vit. C'est l'individu. Et c'est important de voir ces corps extrêmes. Parce que ces corps extrêmes montrent comment le corps détermine. Et que ce n'est plus seulement de la disposition. Vous êtes obligé à ce moment-là d'abdiquer au point de vue de votre personne. Et c'est l'individu qui s'impose d'une manière tyrannique. Vous voyez tous ces problèmes-là, des quantités de problèmes actuels, tous les problèmes de médecine, c'est sur le corps. Dans quelle mesure la psychanalyse ou la psychiatrie qui intervient avec violence sur le corps d'une manière chimique. Parce que on ne sait plus quoi faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font souvent. Ils cherchent. Ils électrochoquent. On crée des climats de violence pour essayer de retrouver un autre équilibre. Tout ça provient du corps et de l'individu. Personne est comme complètement absorbé par l'individu. Cette expression du reste terrible qu'on emploie, on est réduit à l'état de plante. Ça exprime bien la chose. C'est terrible parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, parce que la personne est toujours présente. Mais ne se manifeste plus. Le point de vue du corps joue un rôle très important. voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est pris par la passion d'une façon telle que de fait il ne raisonne plus. Il y a tous les complexes qui, à ce moment-là, jouent d'une manière quasi nécessaire. Parce que c'est jamais du nécessaire absolu. Il n'y a que dans la vie végétative. Et dans la vie affective, c'est un conditionnement très très fort qui s'impose. Vous voyez la place du corps au niveau passionnel. La personne est comme inhibée dans la passion. Immédiatement, il y a telle autre chose. Et c'est là des réflexes conditionnés qui s'imposent et qui s'imposent d'une manière violente. Et on peut à ce moment-là connaître des violences qui dépassent tout. Dans la colère, quelqu'un peut tuer. S'il a des instruments autour de lui, ça peut aller jusque-là. D'une colère. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être victime de quelqu'un qui est complètement ivre. Parce qu'il y a des ivresses anti-religieuses d'une violence extraordinaire. Et il y a des ivresses pieuses, au contraire. Quand on circule en habit, ça tout de suite. On voit des ivresses qui sont vraiment anti-religieuses. J'ai quelques exemples, je ne vais pas les dire ici, parce que des exemples très nets et de personnes qui capables d'aller jusqu'au bout. Et on ne doit pas dire à ce moment-là, il n'ira pas jusqu'au bout, sinon je le connais bien. Non. Il y a un dépassement de ce que représente l'attitude prudentielle, complètement inhibée. Le corps, à ce moment-là, encore une fois, détermine certains complexes d'une manière violente qui ne peuvent plus être maîtrisés par la prudence. Il faut le comprendre. C'est pour ça qu'on enchaîne les gens. C'est inhumain, ils s'enchaînent. Oui, mais ces personnes se mettent en dehors du régime humain. Et donc, on a besoin de les tenir. Autrement, elles feraient des dégâts. Elles tueraient, et après, elles regretteraient tout ce qu'elles ont fait dans cet état-là. Elles diraient, c'est pas moi. C'est elle, individuellement, c'est pas elle, personnellement. C'est tous ces cas très particuliers qui se multiplient. C'est évident que la passion, dans des pays civilisés qui se dégradent, est pire que la passion dans des pays non civilisés, où la passion pays. Vous voyez, le point de vue des drogues peut permettre d'aller très loin dans la passion. Par le point de vue imaginatif. Par le point de vue imaginatif, on peut aller très très loin. Et poser des actes qui sont complètement inhumains. Objectif et tout devient subjectif. On voit des choses qui sont purement subjectives. Tout le domaine de la... Oui, c'est tout le domaine très délicat aujourd'hui entre les véritables apparitions et les hallucinations. qu'il y avait un petit groupe de psychanalystes à Paris auquel, pendant toute une année, on a essayé de voir comment discerner les hallucinations des visions. Vous savez que les hallucinations visuelles, auditives, sont les plus courantes. Les hallucinations tactiles sont beaucoup plus graves et sont beaucoup moins courantes. Mais l'hallucination, au point de vue philosophique, c'est quand l'imaginaire l'emporte au point de vue de la détermination. Quand l'image devient objet. Et on ne peut plus discerner la différence entre l'image représentative et la réalité. Et on confond l'image et la réalité. Alors, dites-moi une hallucination. On voit des choses, on entend des choses. Certaines personnes particulièrement sensibles, quelquefois, sont prises comme ça. C'est pas vrai, il n'y a rien du tout. Mais je vous affirme qu'il y a quelque chose. Et ça, alors, c'est le domaine imaginatif qui, j'allais dire, détruit le domaine spirituel. Parce que c'est vraiment une destruction. Dans le domaine proprement spirituel de l'intelligence, l'imagination ne fait que disposer. C'est la réalité qui détermine. Le réalisme de l'intelligence doit lutter constamment contre les hallucinations imaginatives. Doit lutter constamment contre ce domaine de l'imagination qui veut tout prendre. L'imagination aime de régner, aime de s'imposer, parce qu'elle a quelque chose d'infini. C'est net. On se sert de nos images. Mais nos images ne sont pas notre connaissance. On dépasse les images pour connaître la réalité. On dépasse les paroles pour la signification de la réalité. Demeure pas donc dans le domaine sensible. Il y a le passage de la représentation à la signification. La signification, seule l'intelligence la saisit. La représentation peut être saisie par l'image et par l'imagination. Donc il y a là un domaine extrêmement important à bien discerner et qu'on peut tous arriver à discerner. Si on a une certaine maîtrise de soi. Mais c'est très très important, philosophiquement, de bien voir les frontières. Dans les cas particuliers, c'est pas commode hein, de voir les frontières. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit qu'il a des visions. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Souvent, ces gens se précipitent sur un prêtre étranger, parce que tout le monde dit « est un peu malade, cette personne, elle dit qu'elle a des visions, ce sont des hallucinations. » Alors, elle se précipite, ces personnes-là. Là encore, on a des tas d'exemples, et ça fait partie de l'expérience. Identifier hallucination et vision. Dans le domaine affectif, spirituel, dans le domaine personnel de notre affectivité. Le corps joue un rôle beaucoup plus important que dans la vie intellectuelle. C'est bien évident. Mais le corps ne détermine pas notre vie spirituelle. Quand notre corps détermine notre vie affective, spirituelle, il y a une régression. On n'a plus de vie spirituelle, on n'a plus qu'une vie passionnelle. Et c'est ça que la passion peut arriver à faire. Et à ce moment-là, on est pris par la passion. Et on n'arrive plus à discerner ce que c'est que l'amour spirituel. L'amour spirituel qui relève de la volonté. L'amour d'amitié qui est spirituel. On aime la personne de l'autre. Dans son exercice, cet amour implique toujours des liens avec la passion. Vous ne pouvez pas arriver ici sur Terre à avoir un amour spirituel, purement spirituel. C'est pour ça que je prends cet exemple, parce qu'il est très significatif. Et il fait comprendre la place du corps dans le côté affectif. Même spirituel. Le corps joue à ce moment-là le rôle d'un rayonnement. Vous voyez, ce n'est plus le conditionnement. C'est le rayonnement. C'est la manifestation qui, elle, peut être s'épanouir dans le point de vue artistique. Le conditionnement ne joue pas pour l'art, mais la manifestation joue. Et il est évident que lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle, affective, le corps n'est plus seulement un conditionnement substantiel, mais il joue le rôle de rayonnement, de manifestation, de présence, de séduction. Tout ça, c'est le corps. Et c'est le corps qui, de fait, permet à la personne humaine de jouer un rôle très particulier, qui est le rôle d'une séduction. Le pan qui fait la roue. Du corps.